There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jorge Masvidal revient dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin. RMC Sport pour la main card de l'UFC 261, mon cher Rust. Revanche contre Kamaru Usman, mais c'est pas un petit mais. Jorge Masvidal va jouer bien plus que le titre à Jacksonville, en Floride. Il va tout simplement jouer, et ça c'est pour moi, quelque part. C'est ce que je pense intimement, c'est sa légitimité au plus haut niveau au sein de cette catégorie welterweight et même de l'UFC.
Wow.
Générique.
Soit.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Donc oui, et oui, Jorge Masvidal revient, le BMF revient, main event de l'UFC 261, bilan de 35-14 en carré, et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on se pose avec Rust pour en parler, c'est que c'est vrai, Kamaru Usman est aujourd'hui la deuxième peut-être plus grande star de l'UFC, 1,2 million de pay-per-view lors de son deuxième combat, 1,2 million.
Kamaru Usman ?
Jorge Masvidal, autant pour moi.
Ah, putain.
Alors qu'il n'avait que 6 jours de préavis pour son combat contre Kamaru Usman, alors qu'il compte 14 défaites en carrière. C'est énorme. C'est plus de combats professionnels que Brock Lesnar. C'est plus de combats professionnels que Cyril Gann.
C'est plus de combats professionnels, ça se trouve, que les deux en même temps, parce que, attends...
Peut-être.
Non, peut-être pas non plus, parce que... Non. Mais pas loin. Mais oui, non, ça fait effectivement beaucoup
c'est
de défaites.
C'est plus
mais...
que le nombre de combats à l'UFC de Khabib Nurmagomedov.
Ouais. Non, c'est énorme. C'est énorme. Mais, et c'est là où c'est... Moi, j'aime bien. C'est là où j'aime bien. C'est que c'est énorme, mais entre guillemets, c'est pas forcément si grave que ça en MMA. En MMA. Parce que c'est vrai que si on était en boxe anglaise, là, par contre, 14 défaites, je pense qu'il y a un moment donné, quelqu'un te dit, bon, mec, va jouer à PlayStation, parce que c'est, disons, au plus haut niveau, parce que ça existe, évidemment, dans les niveaux en anglaise qui ne sont pas les niveaux triple A, tu vois. C'est pas forcément, comment dire, ça existe, tu vois. Et puis, il y a même à l'extrême opposé en boxe anglaise, souvent, on va voir un peu avec toi et avec Pauly Domso, on va voir, tu sais, des records. Des gars qui ont un record de genre 15 victoires et 98 défaites. Et en gros, c'est parce qu'il y a des gens, c'est entre guillemets leur métier. J'ai oublié le nom de ces combattants-là. Et en gros, c'est leur métier de...
Journeyman.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, en boxe anglaise, le terme journeyman, il a ce sens-là, quoi. Et en fait, tu gonfles, tu sers à gonfler, t'es payé pour ça, des records d'autres combattants qui commencent. En MMA, c'est un peu différent parce qu'en fait, en MMA... Même quand tu es un combattant triple A, ce n'est pas forcément un problème et ce n'est même pas forcément nécessairement très mal vu d'avoir beaucoup de défaites. On peut déjà commencer par donner des exemples. Donc, évidemment, tu as cité Jorge Masvidal.
Conor McGregor aussi.
Ah ! Donc, non, évidemment, pas Conor McGregor, mais on peut citer, par exemple, Alistair Overeem, on peut citer Nate Diaz, on peut citer, pour un ancien champion de l'UFC, Robbie Lawler. Donc, en fait... C'est pas forcément un problème que d'avoir beaucoup de défaites à Randy Couture également, BJ Penn. Bah, BJ Penn plus sur le tard, mais Randy Couture, c'était ouais. Le cas. Tu vois, je crois qu'il était à 19-10, un truc comme ça, mais il avait aussi affronté que des champions. Enfin, donc c'est entre guillemets, c'est pas rare. Ça n'est pas rare, quelqu'un qui a beaucoup de défaites dans les MMA au plus haut niveau. C'est parce que la défaite n'est pas vue de manière aussi critique. Et importante critique dans le sens anglais du terme, genre critical, tu vois, enfin, c'est genre, c'est pas dramatique d'avoir beaucoup de défaites. Et du coup, bah, en fait, ça facilite vachement les échanges, ça facilite vachement la carrière en MMA, parce que du coup, par exemple, un Robbie Lawler qui arrive, qui revient à l'UFC, parce qu'il avait eu un premier run étant jeune, qui revient à l'UFC après avoir été au Strikeforce, après avoir été en middleweight, donc là, tu te dis, ok, le mec était parti de l'UFC, il va de catégorie en catégorie, qu'est-ce que c'est que ce travail, machin. Mais ce qui est bien, c'est qu'en MMA, ben, il peut quand même avoir une seconde, voire troisième, là dans le cas, c'était plutôt une troisième partie de carrière, où il est quand même considéré parce qu'on se dit, OK, c'est une, il régénère sa carrière, c'est, il revient, c'est un nouveau Robbie Lawler, ça intéresse tout autant les fans, ça fait un storytelling que les gens aiment suivre, ils aiment quelqu'un qui vient avec cette espèce de rédemption, cette espèce de, comme Anthony Smith, tu vois, qui a eu son title shot aussi contre John Jones. En MMA, on adore ce côté. Il a vécu, il a eu des passages difficiles. C'était quelqu'un qui n'était pas forcément plus haut niveau, mais il a trouvé le moyen de se changer. Il revient et il fait partie maintenant des triple A. Rafael Dos Anjos, pareil, qui a aussi eu ce moment où pouf, il a trouvé, tu sais, c'était avec, j'ai oublié ce mec qui fait de la prépa physique, je crois que c'est Nick Curson, mais je ne veux pas être certain. Et il a été aussi avec Rafael Cordeiro, etc. Et c'est devenu une machine à tuer et il est devenu champion, etc. Et superstar de l'UFC avec 14 défaites pour Jorge Masvidal, c'est donc non seulement possible, ça n'est pas rare, et c'est ça que personnellement j'adore en MMA, c'est que c'est possible et que c'est pas mal vu, tu vois.
C'est pas mal vu, mais il faut pas qu'il y en ait trop quand même.
non, mais c'est vrai, cela dit, c'est pas
blague à part. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher host. Mais, et c'est pas un petit mais, j'ai vu ça sur Twitter, ça m'a un petit peu fait rire. Enfin, même, oui, si, oh, rire, wow. rire tout simplement. Parce que
à
oui.
À gorge déployée ou.
À gorge déployée, et oui. Parce que tout simplement, c'était, je ne sais plus trop quel compte qui mettait, oui, ça y est, il y a. Enfin, quand les committee managers des différents comptes UFC dans le monde sont obligés de passer en boucle highlight de Jorge Masvidal contre Ben Askren. Parce que là, pour moi, où ça commence à devenir chaud, c'est vrai que là, ça fait. Donc, le KO contre Ben Askren a eu lieu le 6 juillet 2019. Ça va faire grosso modo 2 ans, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais que Jorge Masvidal vit sur ce highlight-là, en fait. Et là, c'est vrai que ça commence, tu sais, t'as envie de te dire, il faut peut-être de nouveaux highlights, de nouveaux faits d'armes pour commencer à un petit peu plus avancer. Et là où je trouve que c'est un petit peu chaud, et Kamaru Usman l'a dit très justement, c'est vrai que sur ses 6 derniers combats, Jorge Masvidal, il est à 3-3 en carrière. Il l'a dit lors de la conférence de presse traduite par nos soins, disponible sur une chaîne YouTube.
Ouais, t'as tellement charbonné.
C'est pas nous, c'est nos assistants, mon cher Russ. Nous, on est là, on fait exclusivement le podcast, hein, bien évidemment. Alors, donc, 3-3 sur ses derniers combats. Là, s'il perd contre Kamaru Usman, grosso modo, il dit bye-bye au titre jusqu'à ce que Kamaru Usman soit battu. Ce qui, ça pourrait prendre un petit peu de temps. Et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète un petit peu pour Masvidal. C'est que là, t'as quand même besoin, tu vois, de rappeler un petit peu au monde que t'es quand même au top du top, dans le sens où, tu vois, je pense qu'un Nate Diaz, et t'en parlais très justement, il a beaucoup de défaites, mais pour moi, Nate Diaz n'a jamais eu besoin d'avoir une vraie grosse légitimité sportive pour justement attirer les foules. Et puis même, on peut aussi dire qu'il attire vraiment les foules que depuis ses combats contre Conor McGregor. Mais je veux dire, ça reste une personnalité, quelque chose à part. Là, Jorge Masvidal, tu ne peux plus être en main event de pay-per-view si tu commences à perdre. Enfin, si tu commences à perdre. Il a déjà perdu, mais tu as 2 défaites contre Kamaru Usman. Ensuite, peut-être si, imaginons, il perd contre Kamaru là, tu le mets peut-être en. Allez, tu fais peut-être un combat contre Colby, contre Leon Edwards. Mais ensuite, enfin, tu as une urgence à gagner, en fait.
C'est vrai, mais. Bah, tu vois, je sais pas si je trouve ça, je sais pas si c'est juste, mais dans le sens justice injustice en fait. Mm-hmm. Je trouve que c'est peut-être pas juste de dire il a même pas, enfin c'est galère de réussir à trouver un highlight pour Masvidal sur ses derniers combats et parce que pour Kamaru Usman, si vraiment on devait trouver des highlights, il y a des moments où il a touché Kamaru Usman, pas dans le sens touché mis mal, mais il y a des moments où il a touché Usman. C'est juste que c'est le champion Usman, donc tu peux pas vraiment mettre en valeur ton champion qui se fait toucher sur une combinaison ou qui se fait dépasser.
Ils l'ont fait. L'UFC l'a fait dans les différentes bandes annonces.
Donc ils l'ont fait. OK. Et pour Nate Diaz, parce que je crois que c'était. Oui, Nate Diaz, c'était après Ben Askren.
Oui, c'était après Ben Askren, ouais. Ouais, en 9 ans.
Bah, peut-être qu'ils n'utilisent pas beaucoup de highlights, mais s'ils le voulaient, honnêtement, ils pourraient en utiliser parce que c'est simplement qu'il n'y a pas eu de finish à proprement parler parce que c'était sur coupure et c'était un peu d'ailleurs anticlimatique. Mais il y avait des passages genre en clinch où si vraiment il voulait utiliser des highlights, franchement, de férocité de Masvidal en clinch et tout, il pouvait. Hein. Donc, je trouve que c'est pas juste de dire ça parce que honnêtement, à part, ben, donc même pas à part, puisqu'il y a eu des moments aussi où il a pu briller par flash contre Kamaru Usman, honnêtement, sur tous ses derniers combats, il y a eu des moments de brillance et de férocité et d'envie et de technique de la part de Roel Masvidal, je trouve. Hein.
Non, mais pas très impressionnant. Ce que je veux dire, c'est dans le sens où combien de fois tu vas mettre le KO en 5 secondes contre Ben Askren ?
Bah ouais, parce que c'est plus rapide de l'histoire.
C'est le plus rapide, non, mais quand tu vois, ils le mettent tous les jours. Après, t'es peut-être pas autant que moi sur les réseaux sociaux, mais tous les jours, on a le droit au KO. Dans le sens où tu vois, Kamaru Usman, c'est pas dans le sens plus être impressionnant, mais Kamaru Usman, tu reviens à février, en fait, tu fais OK. En février, il a battu le numéro 1 de la catégorie welterweight. Tu sais, c'est plus dans le sens.
Ah oui, d'accord. Ah oui, dans le sens. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Masvidal avoir une victoire ou quelque chose, un fait d'armes d'importance suffisante pour.
C'est ça.
D'accord. Okay.
C'est ça. Oui, justement, c'est j'y pensais. Et d'ailleurs, c'est vrai. Et ça, c'est un autre truc. J'y ai pensé en début de journée, justement.
De bon matin.
Mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on en parlait justement sur ces welterweight où, à part Kamaru Usman, personne au sein du top 5 ne s'est affronté. Et c'est vrai que, mine de rien, le mec le mieux ranké que Masvidal a battu, c'est Ben Askren qui n'est tout simplement plus à l'UFC et qui est retraité du MMA purement et simplement. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est assez fou quand même. Et non, pour quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui découvre le MMA depuis un an, à part se dire que, donc qui n'y connaissait rien bien évidemment, à part se dire qu'il a mis un KO en 5 secondes, tu ne sais pas qui est Ben Askren et tu ne sais pas ce qu'il a fait en fait.
Et
c'est assez fou de se dire, tu as le title shot et il a un title shot et une revanche.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En ayant battu Ben Askren comme mec le mieux ranké, le mieux classé battu par Roy Masvidal, c'est Ben Askren. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je parle justement de cette légitimité sportive. Je ne parlais pas des highlights en termes d'images spectaculaires, parce que Kamaru Usman en a, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, Roy Masvidal a ce besoin crucial de conforter, en fait, sa place en tant que OK. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, je suis du même avis que toi, et je pense que ça ne devrait pas compter. Et même en boxe anglaise, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on y attache une trop grande importance à ce fameux zéro en carrière. Pour moi, il faut prendre des risques, et donc forcément, tu prends des défaites ici et là, mais tu restes relevant. On en parlait avec Rust, un boxeur que Rust adore, qui est britannique, qui a pourtant, je crois, 9 défaites en carrière, si je ne m'abuse. C'est Chisora. Voilà, mais sauf que il prend tout le monde, il prend des risques. Même aujourd'hui, j'ai envie de dire un mec comme Dillian White. Dillian White, ça ne me dérange pas qu'il ait perdu. Andy Ruiz, ça ne me dérange pas qu'il ait perdu non plus. Et au contraire, moi, je trouve ça très bien. Même quand vous regardez l'époque avec les Duran, les Marvin Hagler, les Hearns et les, bien évidemment, Sugar Ray, exactement. Ils sont tous affrontés, bah forcément. Si vous êtes 4, vous affrontez tous. Il y en a certains qui vont partir avec des défaites. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous vous souvenez de quoi ? De cette période absolument gigantesque où tout le monde affrontait tout le monde. Et OK, il y a peut-être des chaos. OK, il y a peut-être des décisions. OK, il y a peut-être... Enfin bref, à la fin, vous allez forcément perdre. Mais ce qu'on retient, c'est que OK, ils sont tous affrontés. Et c'est moi, pour le coup, avec Roy Masvidal, surtout que, voilà, c'est aussi ce que je veux dire par rapport à Roy Masvidal, c'est lui, je crois, qui a le record de défaites par décision partagée à l'UFC.
Ouais.
Et il a quand même 11 défaites à la décision. Donc, c'est pas comme si c'était un mec qui perdait régulièrement ou c'était chaud, parce que même contre Demian Maia, c'était une décision partagée, et quand c'était debout, il a eu très très chaud, Demian Maia. Donc, il a été valeureux lors des phases au sol, Roy Masvidal. Tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il a vraiment ce besoin, tu vois, d'ajouter une victoire. Parce que même là, tu vois, on l'a vu lors des UFC Embedded, il arrive avec son jet privé, tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça quand tu es 8e mondial, tout simplement.
Ouais. Bah non, c'est clair. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, j'avoue, tu le disais tout à l'heure, si jamais tu décris à quelqu'un qui ne suit pas le MMA d'aussi près que nous et que vous, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est Masvidal qui a le combat pour le titre, là ? Alors qu'il n'a pas combattu quelqu'un du top 10 depuis, je sais pas, un an et demi ou un truc comme ça, c'est vrai que c'est difficile à défendre. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi difficile à défendre. Pourquoi est-ce que Leon Edwards va combattre Nate Diaz? Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu sortis du chapeau. Mais effectivement, et c'est là où en fait je te rejoins sur ce sujet de podcast et la raison pour laquelle on est là, c'est que du coup, si là Jorge Masvidal perd et qu'il se fait vraiment étouffer, enfin vraiment cuire à l'étouffer, comme Tarbaon, mais effectivement, il risque de perdre pas mal en légitimité en fait. Et c'est là où c'est chiant, mais c'est pour un bout de temps en fait, parce que du coup pour un bout de temps on sera en mode bah ouais il est capable de briller contre Nate Diaz parce que Nate Diaz il est fini, enfin c'est pas nous qui le disons mais c'est ce qu'on entend, il est capable de briller contre Ben Askren mais on a vu un petit peu que maintenant Jake Paul est capable de le mettre KO, donc bon qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc en fait maintenant le problème c'est que si là il se fait vraiment étaler et dans le sens, enfin tu sais, serpillère par Kamaru Usman, c'est vrai qu'il y a probabilité que ça dure un bout de temps, le fait qu'on ne lui accorde plus la crédibilité qui pourtant à mon sens mérite, mais c'est vrai que c'est aussi inhérent à cette catégorie des welterweight en ce moment, c'est que bah, Colby Covington du coup Dana White a dit qu'il allait avoir le prochain title shot, il n'a pas combattu depuis très longtemps et sur ses deux derniers combats y en a un qu'il a donc perdu contre Kamaru Usman pour le titre. Enfin, maintenant, je ne sais pas, c'est comme si ce n'est pas bouchonné, puisque donc ils ont leur opportunité, Masvidal et Colby Covington, donc ce n'est pas bouchonné, mais c'est comme s'il n'y avait plus une hiérarchie saine où tu bats le numéro 4, le numéro 4 contre le numéro 3, ça se passe bien, c'est crescendo, et c'est clair le chemin que tu dois emprunter pour arriver jusqu'au titre. Donc c'est... Mais ça, c'est vraiment la catégorie welterweight en ce moment, j'ai l'impression. C'est très étrange, quoi.
Ouais, 4 défaites, donc par décision partagée pour Jorge Masvidal. À l'UFC, c'est pour ça que je ne regardais pas Rust dans les yeux durant son intervention. Je surveillais les chiffres parce que c'est important d'être précis, mon cher Rust. Donc voilà, c'est vrai que pour Jorge Masvidal, qui pour moi aujourd'hui est donc à la croisée des chemins au sein de cette catégorie,
ouais.
À suivre en tout cas, parce que c'est vrai que Le gros avantage qu'il a aujourd'hui quand même, c'est d'être une véritable superstar. Curieux de voir aussi les chiffres de ce pay-per-view, parce qu'on en parlait.
Et moi aussi.
C'est qu'avec Rush, je ne sais pas si tu es toujours dans ce même état d'esprit, je n'ai pas envie de parler pour toi, bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je ne suis pas aussi excité que ce que je devrais être avant un combat de cette envergure-là. J'ai l'impression, ouais, en fait, de l'avoir déjà vu. Je ne crois pas du tout à l'upset et je n'espère pas pour Masvidal que c'est comme ça aussi pour les autres, pour les Américains, dans le sens où c'est quand même, je crois, $74 aux États-Unis le pay-per-view, ou $64, pardon, le pay-per-view. Donc c'est vrai qu'il faut quand même le payer.
Bah non, il faut clairement sortir les bifetons, mais c'est vrai que pareil, j'ai vraiment, que ce soit moi personnellement, dans nos discussions ou dans ce que je ressens sur les réseaux, c'est clair qu'il n'y a pas du tout, j'ai l'impression, la même hype et le même entrain des gens pour ce combat-là particulièrement. Et même, j'ai plus l'impression que la carte, elle est hypée plus, pour une fois, tu vois, par Weili Zhang versus Rose et, dans une moindre mesure, Valentina Shevchenko, que pour le combat principal. Et c'est vrai que c'est assez étrange, mais du coup, je suis très curieux. Du coup, le problème, c'est que si ça ne marche pas aussi bien et que si ça ne marche pas terrible, on ne le saura pas, puisque du coup, les chiffres ne seront probablement pas divulgués, à moins que ce soit obligatoire en Floride, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que j'ai... Moi aussi, je pense que c'est juste cette impression de déjà-vu, en fait. Je crois que c'est juste cette impression de... Oui, il va être capable de peut-être surprendre sur des échanges Kamaru Usman, mais que, in fine, dans la durée du combat... On sait un peu ce que ça va donner. J'espère qu'on se trompe, parce que personnellement, j'aimerais bien voir un upset, mais j'y crois pas trop non plus, quoi. Donc, effectivement, je serais curieux de voir si le pay-per-view marche aussi bien que le dernier.
Ouais, en tout cas, mais surtout que là, en plus, il y a toute la machine communication de l'UFC qui est lancée. En tout cas, pour Masvidal, 36 ans, une victoire, sur une série, enfin une défaite là sur son dernier combat. S'il venait à perdre, à mon avis, ce serait très compliqué pour lui, parce qu'ensuite l'UFC ne lui fera pas de cadeau. Je les vois mal, tu vois, faire directement la revanche du BMF pour la suite. Peut-être, pourquoi pas, parce que c'est vrai que là, il a toujours été très clair sur ses ambitions. Il veut le titre, justement. Donc tu vois, un combat contre Nate Edwards ou contre Colby Covington, ce serait très tendu pour lui. Et ouais, il peut très rapidement se retrouver sur une série de 3 défaites consécutives. Et là,
ouais.
Là,
ouais,
tu te dis, c'est un petit peu tendu pour ta carrière à cet âge-là, surtout que le mec qui est juste derrière lui, c'est Stephen Wonderboy Thompson. Wonderboy qui veut aussi une revanche contre Masvidal parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça lui apporterait de l'argent. Mais là encore, je ne vois pas comment ça pourrait être différent du premier combat pour Jorge Masvidal. Donc c'est vrai que c'est, il est dans une situation assez inconfortable. Enfin, assez inconfortable. Ah, ouais, il est quand même un combat du titre. Hein, c'est,
ouais, dire, c'est paradoxal.
Ça,
hein.
Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que s'il perd là, compliqué quand même pour la suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Jorge.
Absolument.
Rendez-vous donc dans la nuit de samedi.
Il a l'air stock. Hein.
Ouais, pour cette UFC 261. Là, franchement, il a l'air en forme. Surtout, sauf, tu vois, blessure de dernière minute et tout ça. On va voir vraiment ce que donne un combat Kamaru Usman plein potentiel contre Colby Covington. Contre Jorge Masvidal plein potentiel. D'ailleurs, j'ai lu l'article d'ESPN. Alors, je sais, j'espère en tout cas que c'est vrai tout ce que Kamaru Usman a dit. Mais impressionnant, mon cher Rust. En fait, il a souffert du coronavirus, donc Kamaru Usman. Il a, pendant, je crois, 3 jours suivants, donc déjà, il s'était mal réveillé lors de l'UFC 251 contre Jorge Masvidal. Les 3 jours suivants, il s'est tellement peu nourri qu'il urinait du sang. Ensuite, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? C'était bien le coronavirus et je crois qu'il a perdu 17 pounds, justement, à cause du Covid. Donc, vraiment...
Ah oui, c'est énorme, 17 pounds, c'est quoi? C'est 8 kilos, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, j'ai peur de dire des bêtises.
7,5,
ouais,
je dirais.
Ouais.
Attends, vas-y. Ouais, 7,5, vas-y, je dis. 17 pounds, 7 et 7, 14. Ouais, peut-être un peu plus. Non, 8,5.
Et bah ouais. Non, c'est... Je suis en train de charger l'article.
Ah merde, donc,
c'était... Okay. Oui, exactement, c'est ça. 17 pounds en 8 jours. Voilà.
Ok.
Donc,
ça, j'ai envie de savoir. Ouais, ok, mais ouais, non, c'est impressionnant. Et donc, ça, c'était la semaine du combat avec Masvidal?
Ouais, exactement. Non, c'était la semaine d'après le combat. Donc, 4 days later, donc voilà, il était tellement déhydraté qu'il urinait du sang. Il avait perdu donc le sens de l'odorat et le goût. Et au jour 5, justement, des symptômes, il a été aux urgences. Et donc, c'est là qu'il a testé positif au coronavirus. Donc, voilà.
Ouais, quand même.
Donc,
sérieux quoi, ouais.
Donc, ouais, non, c'est
all right,
ouais, c'était chaud, hein. Enfin, n'importe quoi. C'était l'été dernier, c'était quand il était rentré à Denver dans le Colorado après l'UFC 251, donc c'était pas du tout le matin de l'UFC 251.
Oh putain, ah non, mais non, t'as pas le droit de faire ça là.
Excusez-moi.
Eh non, c'était il y a 15 piges.
J'ai été emporté par le drama. Donc en fait, oui, rien à voir avec le. Mais en tout cas, non, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez impressionnant et ça vous montre une nouvelle fois que ça peut avoir de sérieuses répercussions cette maladie. Bref, donc voilà, après l'espèce d'ascenseur émotionnel, big shout out to my sweet protein.
Yes.
Moins 40% sur tout my protein avec le code la sueur et moins 10%. Surtout Venom, avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. See you, Big Rusty.
I'm fucking coming for you!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.